Voilà, c'est la rentrée. Et comme à chaque rentrée, les tâches oubliées de l'été s'accumulent. Pour Ghostbusters aussi, surtout avec ce mois de septembre quelque peu agité. Trop occupés à aller clamer notre colère contre ce gouvernement, nous n'avons pas pu terminer notre première émission de l'année. On repart alors avec une rediffusion d'une des émissions de Bras Zéro sur Canal Sud. C'est un entretien avec Géraldine, membre des archives contestataires de Genève, autour du livre « Nous ne nous tairons plus, pratiques féministes de la radio et de leur contexte, 1975-2000 ». Il a été édité en 2025 par les archives contestataires de Genève. Ce livre vient conclure un programme de numérisation, description et valorisation des archives sonores de deux émissions de radio féministes genevoises. Bonne écoute!
Donc, voilà, ça c'est toujours compliqué de faire les débuts. Bonjour.
Bonjour.
On est là pour parler de « Ne nous tairons plus », pratiques féministes de la radio et de leur contexte, 1975-2000. Ça a été édité en 2025 par les archives contestataires de Genève. Et ça vient conclure un programme de numérisation, description et valorisation des archives sonores de deux émissions de radio féministes genevoises. Alors un petit mot juste, tu me corriges, hein, sur les archives contestataires. Fondées en 2007, elles collectent, elles décrivent, valorisent des archives issues de nombreux mouvements sociaux de la deuxième moitié du XXe siècle, contre-culture, antimilitarisme, droit des patients, lutte contre le nucléaire, lutte sociale, contre-information, anti-impérialisme, lutte étudiante, etc. Des archives collectées auprès des militants et militantes ou de groupes encore existants, qui sont stockés dans des conditions adaptées à une longue conservation, et elles font l'objet de descriptions accessibles en ligne par le biais d'inventaires et d'un catalogue de bibliothèques qu'on mettra en ligne. C'est assez chouette, c'est une bonne présentation, ça va ?
Tout à fait, oui, absolument.
Ouais, ben voilà, on va parler peut-être un peu de ce livre, mais avant, moi j'ai envie de revenir un peu au commencement, hein, avant ce livre qui moi m'a déclenché l'envie de faire l'émission, c'est les archives, quoi, et comment ça se présente, comment ça arrive, à quoi ça ressemble, c'est deux émissions féministes, voilà, c'est des cassettes, des bandes, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est des boîtes en carton remplies de cassettes audio qui sont les cassettes qu'on avait dans nos voitures quand on était petit, en tout cas pour ma part, qui cuisinait dans les années 80. C'était deux émissions de radio, Radio Pleine Lune et Remue Ménage, qui ont été produites à partir de la fin des années 70 et qui se sont arrêtées à la fin des années 90.
Ces cassettes-là, elles sont datées, il y a un titre, il y a... voilà, ou c'est un pêle-mêle de cassettes.
Alors, on a deux cas de figure super différents. Dans le cadre de Radio Pleine Lune, le fond, il nous a été donné par l'animatrice principale de l'émission, qui s'appelait Viviane Gonick, qui est décédée en 2023. Et elle nous a donné ce fond, et c'était vraiment le bazar, quoi. Il y avait plein de cassettes sur lesquelles il n'y avait aucune info. En fait, tu vois, c'est vraiment les cassettes dans les boîtiers en plastique, là, et c'est écrit généralement à la main, parfois une date, parfois un titre, parfois des intervenantes, mais en fait, souvent rien du tout. Et donc, pour son fond, ça a été ultra précieux d'avoir aussi un peu d'archives papier qui accompagnaient, en fait, les cassettes. Et notamment, on a retrouvé un tract qui appelait à une réunion, 2 ans après la création de la radio, pour convier des nouvelles animatrices à venir participer à la radio. Et dans ce tract, il y avait une liste de toutes les émissions par date qui avaient déjà été produites. Et ça m'a énormément aidée pour reconstruire la chronologie, en fait, et réorganiser les cassettes au moment de la description. Voilà, premier cas de figure, Radio Pleine Lune, assez difficile et chaotique. Et dans le cadre de Remue Ménage, c'était le contraire. En fait, Catherine Hesse, qui nous a versé ce fonds, elle avait conservé quasiment l'archive complète des émissions qu'elle a produites. Elle a fait de l'émission quasiment toute seule tout au long de l'existence de son émission, donc ça a été assez facile pour elle de faire ça. Et elle les avait classées par date, c'était très très clair et facile d'accès, quoi.
Du coup, je vais corriger un truc, parce que c'est toi qui as fait ce travail-là, déjà, un. Et deux, comment tu veux te présenter, en fait?
Moi, je m'appelle Géraldine et je travaille comme archiviste aux archives contestataires. Et oui, si je parle là de tout ce travail, c'est parce que je me suis occupée notamment de la description de ces émissions de radio. J'ai pris en charge les différentes étapes de valorisation dont on va parler dans l'émission. Et je me suis chargée de la coordination éditoriale du bouquin qu'on présente, dans lequel j'ai aussi écrit un article. Voilà. Donc oui, je parle d'un point de vue d'archiviste des archives contestataires.
Donc ces cassettes arrivent, il faut les classer, il faut les écouter, quoi. C'est-à-dire qu'il faut les numériser. Et du coup, le support ensuite, c'est quoi ? C'est du disque dur
Ouais, c'est ça. En fait, nous, on ne les écoute même pas quand on les reçoit en tant que cassette parce que ça risque de les abîmer. Donc, c'est très bizarre parce qu'on préorganise un peu le fond sans vraiment savoir ce qu'il y a dessus. Et c'est aussi un travail assez difficile d'évaluation de la pertinence du contenu. En fait, là, dans notre cas, c'est un fond assez petit, même si 300 cassettes, ça paraît beaucoup. Mais il y a des situations où c'est, je sais pas, 10 000 cassettes. Et là, il faut dire, est-ce qu'on fait un sondage ? Est-ce qu'on fait tout ? Enfin bon, voilà, la question financière, elle va aussi beaucoup définir les possibilités de numérisation. Je crois que, je me rappelle plus du détail, mais je crois que dans le cadre de Lorraine Cœur d'Acier, qui est l'émission qui est présentée par Ingrid Eyes dans le livre, ça a été un gros enjeu. Il y a toute une portion des émissions qui n'ont pas été numérisées, notamment parce qu'elles étaient considérées comme moins intéressantes, des émissions musicales, des choses comme ça. Donc voilà, ça pose aussi des questions sur la subjectivité qui vient décider de faire ses choix, en fait. Mais dans notre cas, on a pu tout numériser. Et ouais, on reçoit exactement un disque dur avec des fichiers en très haute qualité. Nous, on les downgrade pour les mettre en ligne. Ça a été la première décision qu'on a prise et qui est une décision qui nous questionne toujours, c'est qu'on a décidé de les mettre en libre accès en ligne sur notre inventaire d'archives. Donc elles peuvent être écoutées par absolument tout le monde, utilisées, et on peut travailler à partir de cet inventaire en ligne. Et c'est intéressant parce que, en fait, nous, en général, les gens, ils viennent consulter les archives chez nous. Donc on les rencontre, on discute, on échange, voire même, ce qu'on fait en général, c'est qu'on leur demande de nous envoyer leurs travaux, parce que ça nous intéresse, bien sûr, de lire ce qui a été produit sur les archives qu'on conserve. Et là, dans ce cas-là, on n'a plus du tout aucun contact avec les gens qui travaillent sur les archives. Donc on y réfléchit, on se demande si on ne va pas mettre un petit système de formulaire en ligne, pas pour contrôler, mais plus pour garder le lien, quoi. Et après, la question de la description, elle a aussi posé question. Normalement, dans le cadre d'archives papier, on décrit un peu par ensemble, par lot. On décrit pas chaque feuille, tu vois. On se dit, OK, ça, c'est un classeur, il parle de ça, et on décrit dans les grandes lignes. À l'inverse, pour la bibliothèque, on décrit chaque livre pièce par pièce. Et donc, on a décidé de faire ça pour les cassettes. On s'est dit, OK, on va vraiment faire une description à la pièce pour que chaque émission soit décrite avec son contenu, les invités, le jour, la date, etc. En fait, c'était trop compliqué de traiter ça comme des ensembles. On ne pouvait pas décrire l'année 1979, ça, tu vois, ça ne faisait pas de sens.
Tu vas tout écouter.
Alors, dans le cadre de Radio Pleine Lune, comme je te disais, comme c'était un peu le bazar, en fait, pour reconstruire cette chronologie, et surtout avant de trouver ce document qui m'a énormément aidée, j'étais un peu obligée d'écouter parce qu'il fallait qu'on, ouais, en fait, il fallait que j'aie les informations sur la bande pour réussir à définir, quand est-ce qu'elle parle, qui est invité, etc. Donc là, dans ce cadre-là, j'ai beaucoup écouté. C'est aussi une décision qu'on a prise en équipe de se dire, OK, on a un peu d'argent pour la description, on a du temps, on va le prendre et on va faire des descriptions assez poussées parce qu'on a envie que les gens travaillent sur ces émissions. Et c'est sûr, le risque, c'est que moins c'est décrit, moins les gens y accèdent et moins il y a de recherche ou de travail qui est effectué dessus, quoi. Donc pour Radio Pleine Lune, j'ai beaucoup écouté, ouais. Et en plus, comme c'était... Je fais un petit retour en arrière, mais aux Archives Contestataires, on conserve le fonds du Mouvement de Libération des Femmes de Genève, qui a surtout été actif dans les années 70, quoi. Et en fait, on a assez peu de fonds liés aux années 80 et après. Et donc, on avait assez envie de pousser à ce qu'il y ait des nouvelles perspectives de recherche qui s'ouvrent sur les années 80 et ensuite. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on avait envie de faire des descriptions plutôt élaborées de cette émission, quoi. Pour donner accès à cette nouvelle période qui est encore assez peu traitée par les historiens et historiennes. Et ça ouvre un peu un champ, quoi. Donc, c'est un choix qu'on a fait de beaucoup d'écrire, ouais. Voilà. Et parce que oui, peut-être je peux le dire, pour le format, c'était deux émissions assez classiques. En tout cas, Remue-Ménage, très classique, format de plateau, des invités qui viennent discuter soit d'une actualité, soit d'une thématique féministe au sens assez large. Et dans le cadre de Radio Pleine Lune, plus divers. Au début, elles ont fait vraiment de la création sonore, surtout qu'elles n'étaient pas en direct au début. Puis ensuite, elles se sont quand même orientées vers une forme de plus en plus normée de plateau avec des invités liés au mouvement féministe, quoi.
Parce que c'est des émissions qui ont duré quand même plus de 10 années chacune, quoi.
Ouais, même 20 en fait.
20 ans.
En gros, Radio Pleine Lune, elle a été fondée à la fin des années 70, entre 79 et 80, c'est pas très clair. Et elle s'est arrêtée en 99. Elles se sont arrêtées les deux en même temps, en fait. Elles étaient sur la même station et elles ont décidé ensemble d'arrêter. Et donc, Remue-Ménage, elle s'arrête en 99 et elle commence en 87. Voilà. Ouais. Longue expérience, ouais. Et c'était hebdomadaire, une fois par semaine, les mercredis.
Et ça fait quoi d'écouter tout ça ?
C'est assez fascinant quand même. En tout cas, au début, c'est sûr. Il y a un effet un peu plongé dans le réel, comme ça. Mais je pense que assez rapidement, je me suis aussi rendu compte, et ça c'est aussi une réflexion qu'on a eu envie de nourrir en travaillant autour de ces archives, qu'il faut pas, il faut passer un peu ce cap de la fascination, il faut garder une distance, quoi, essayer de traiter ça comme des sources comme des autres et pas les rendre trop magiques. C'est bizarre, mais quand on parle des sources sonores, les gens ont tendance à penser qu'on accède à quelque chose de plus proche qu'avec une source papier. Et bon, voilà, toute notre réflexion avec ce cycle, c'est de pondérer un peu cette idée, quoi. De se dire, en fait, faut pas tomber dans le piège de penser qu'on est plus proche des acteurs parce qu'elles parlent en direct, quoi. Et donc, après, moi, j'ai appris énormément de choses. C'était assez passionnant sur cette période. Et ouais, ça nous a donné vraiment envie de réfléchir à l'usage spécifique que les féministes ont fait des médias à ce moment-là. Comment est-ce que le lien entre prise de parole, qui est quand même une revendication importante des mouvements des années 70, notamment féministes, et radio, enfin c'est quoi ce lien, la prise de parole, comment elle vient s'incarner dans la radio, voilà. Et beaucoup rigoler aussi, hein. Franchement, il y a plein de choses qui sont assez amusantes, surtout qu'au début, elles ont un rapport quand même assez distancié avec les normes radiophoniques, donc elles font un peu n'importe quoi à l'antenne, et donc c'est drôle. Ouais.
Et ça t'a fait un effet plutôt de proximité, tu t'es dit tiens, que tu pouvais être avec ces personnes dans cette émission, ou plutôt justement de mesurer une distance du temps qui passe, des différentes manières d'appréhender le féminisme ou les féminismes?
Bah, je pense un peu des deux, mais c'est très lié finalement à ma place aussi au sein des archives contestataires, parce que nous, on est, si tu veux, on récolte donc des fonds d'archives qui sont généralement conservés par des militants, militantes qui sont encore vivants, quoi. Et en fait, on est fortement en lien avec LE. Et donc, ce rapport un peu ambivalent d'à la fois assumer des liens et des héritages forts avec ces personnes qui ont lutté dans les années 70, je le vis, et en même temps c'est sûr qu'il y a des endroits de rupture, et je pense particulièrement sur les questions féministes. Mais j'ai l'impression qu'un truc qui a été intéressant avec le travail qu'on a mené autour de ces émissions, c'est que on s'est rendu compte qu'il y avait de manière un peu naïve, quoi, mais qu'il y avait plus de possibilités de dialogue que ce qu'on croyait en fait. Et ça, c'est une chose qui a été aussi beaucoup dite par les personnes qu'on a conviées à faire des podcasts à partir des archives. On va en parler après. Et donc, ça a plutôt nourri des envies de discuter, quoi.
Mais justement, tu as parlé de différentes manières d'approprier ce matériel. Il y a le livre là, qui déclenche, parce que bon, moi, je tombe sur le livre, ça déclenche un peu l'envie de l'émission. Mais il s'est passé pas mal de temps, parce que bon, ça a été long, cette numérisation et cette description surtout. Est-ce que voilà, tu peux nous raconter un peu par le menu comment ça s'est passé, et peut-être les envies qui s'en est emparé et quelles envies vous aviez derrière, quoi.
On avait aussi envie de discuter de ça avec des gens qui font de la radio aujourd'hui. Et donc ça a été la première étape, c'était de dire... en fait, les animatrices des émissions, Catherine S. et Viviane, elles sont assez motivées à discuter avec des gens qui font de la radio. Et donc on va utiliser les archives pour proposer à des personnes actives dans le monde des radios libres, disons, on va leur proposer de travailler à partir de ces archives pour faire des podcasts. Et ensuite de ça, on a clos ce cycle, enfin cette première partie du cycle, avec une soirée intergénérationnelle, je sais pas, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas une soirée où on s'est tous toutes mis autour de la table et on a discuté de ce que ça faisait de faire un peu de l'histoire, pour d'une certaine manière, de rendre hommage, d'écouter, de s'inspirer, de critiquer. Enfin, en fait, tout, comment est-ce qu'on aborde des objets du passé, quoi, d'un point de vue d'usager-usagère de la radio, d'un point de vue de producteur-productrice, d'un point de vue de féministe, voilà, tous ces points de vue qui se mélangent.
Et comment vous avez travaillé à fabriquer justement ces moments de podcast? Est-ce que les personnes sont appropriées un bout des archives et sont revenues dessus? Comment ça s'est passé? Et ça a été quoi le rôle de l'archiviste à ce moment-là? C'est-à-dire, est-ce que l'archiviste dépose dans les mains des personnes quelque chose, ou est-ce que du coup, c'était quoi ton rôle à ce moment-là?
Ouais, une chose qui a été importante dans la réflexivité qu'on peut avoir sur ces matériaux, ça a été l'invitation qu'on a faite à Juliette Vauclair, qui est venue faire des ateliers d'écoute critique. En gros, elle, je crois qu'il y a différents formats, mais ce qu'on fait, c'est qu'on écoute des sources. En l'occurrence, là, c'était des extraits de ses émissions, en les présentant quasiment pas au public. On les écoute deux fois, et en fait, on discute. D'abord, on essaye de donner des... Enfin, d'identifier qui est-ce qui parle, quel cadre, quelles années, dans quel contexte, etc. Et petit à petit, on en vient à s'approprier les sons et à essayer ouais, de d'être critique vis-à-vis du contenu. Et je pense que ce processus-là, il m'a fait me rendre compte à quel point c'était important d'être sensible au mode de production en fait qui se cache derrière les extraits qu'on entend quoi. Et je pense que ça c'est une chose qui ensuite s'est construite dans le reste du cycle de dire certes on peut prendre au premier comment dire, on peut prendre au pied de la lettre les choses qui sont racontées au micro, mais c'est quand même vraiment important qu'on se demande ce qu'il y a derrière le micro. Et ça, Juliette, elle en parle super bien dans son article qui est la préface du livre, où elle vient ramener un point de vue critique sur ça en fait, parce que on a toujours l'impression que à la radio, on donne la voix aux gens de façon un peu magique. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut pour s'exprimer vraiment ? C'est pas naturel d'être capable de parler dans un micro, de se sentir légitime à faire ça. Et puis aussi, dans les cadres de ces radios qui sont souvent gérées avec des hommes, quelle place les femmes elles ont ? Comment est-ce que cette place, elle s'est négociée en fait ? Comment est-ce qu'elles ont dû faire preuve d'un rapport de force pour pouvoir s'octroyer un temps d'antenne qui va durer dans le temps, etc. Et toutes ces choses-là, elles sont pas souvent dites en fait au micro par les animatrices. Et c'est des choses qu'on comprend, qu'on découvre et qu'on creuse quand on s'intéresse vraiment à la façon dont les émissions sont produites, au-delà de simplement ce qui y est dit, quoi. Et donc, je pense qu'on avait envie de... Enfin, je sais pas si c'est très clair comment je le raconte là, mais on avait envie de rendre les personnes qui vont écouter ces archives sensibles à ces questions. J'espère qu'on y arrive. Voilà.
Je voulais te demander, pour le titre, « Nous ne nous tairons plus ».
Ça provient d'un tract, ouais. Ça provient d'un tract du mouvement de libération des femmes. J'ai plus le contexte exact de ce tract-là en particulier, mais on avait relevé plein de phrases qui avaient à voir avec la parole, quoi. Femmes, prenons la parole, donnons la voix. Enfin, il y a tout un tas de... Vraiment, cette question de la prise de parole et de l'audibilité, elle est vraiment centrale au mouvement de libération des femmes des années 70. Mais de manière générale, je pense que c'est une des grosses questions de l'après 68, quoi. Comment se faire entendre, comment dire les choses qu'on ne peut pas dire dans les médias bourgeois, enfin, voilà. Et du coup, on avait envie de souligner cet aspect-là, quoi, de l'audibilité, en fait, avec le titre. Et ne nous tairons plus, c'est quand même de dire il y a un avant et un après, en fait. C'est qu'on a pris la parole, on ne va plus la rendre. Et voilà.
Peut-être tu peux dire deux mots comment est-ce que vous arrivez au livre, qui est quand même, qui semble quand même plus académique, quoi.
Mmh. Ouais, tout à fait. Ben, en fait, on s'est demandé comment est-ce que ces sources, elles pouvaient être utilisées pour l'écriture de l'histoire, quoi, pour le dire... simplement. Et on a eu envie de convier des personnes, enfin en fait c'est quasiment que des historiennes, un historien, qui travaille à partir de la radio. Et on a organisé une journée d'études à Genève en octobre 2023, je crois, c'est ça. Et donc le livre, il vient après la journée d'études. En fait, on était assez contents du résultat, ça a bien discuté pendant cette journée-là. Et on s'est dit, ok, ben, on tient quelque chose d'intéressant, faisons un livre. Tout simplement. Et donc, on a demandé aux participants de réécrire leur contribution sous la forme d'un article. Et voilà, c'est ce qui s'est passé.
Eh bien, moi, je vais plutôt m'arrêter sur l'article que tu as fait. J'ai l'impression que c'est ça. Mais peut-être si toi, tu as envie de dire des choses. On a déjà parlé de l'article un peu de Juliette Loiclair, d'Amné et d'Ingrid Hayes. Mais si tu as envie d'amener d'autres choses, n'hésite pas, quoi.
Bon, je peux peut-être dire en deux mots de quoi parlent les autres articles. Anne-Christine Schindler, elle fait un article très intéressant sur une émission de radio pirate zurichoise qui s'appelait Wellen Hexes et les sorcières des ondes. Et voilà, elle réfléchit à comment est-ce que la radio peut être utilisée pour produire vraiment une culture propre à un groupe féministe à un moment donné, qui se coupe aussi vraiment, enfin qui est dans une perspective tout à fait séparatiste, quoi, qui se coupe complètement des hommes au moment où elles font l'émission. Mathilde Leroy, elle a écrit un article sur l'émission Anarcha Féministe Femmes Libres de Nelly Trumel, qui était diffusée sur Radio Libertaire. Marc Collin, lui, il livre plutôt un article de contexte. En fait, ce n'est pas une étude de cas, il explique un peu le mouvement des radios libres en Europe et spécifiquement en Suisse, la question de la libéralisation des ondes, comment est-ce qu'on passe de pirate à libre, etc. Ça donne un cadre un peu historique à cette période. Oui, et Fiona Prière, finalement, qui a travaillé sur deux émissions de Radio Pleine Lune et sur la question de la prise de parole, justement. Elle travaille sur une émission, en fait sur trois émissions même, sur une émission avec des adolescentes, sur une émission avec des travailleuses du sexe et sur une émission avec des lesbiennes. Et elle se demande voilà, quelles sont les conditions de prise de parole de ces trois groupes sociologiques, disons, dans la radio. C'est très intéressant aussi.
Et donc Juliette Leclerc fait une intro quoi générale, c'est ça.
Exactement. Et Juliette, on lui avait demandé parce que donc on l'avait fait venir pour ses ateliers d'écoute critique qu'on avait adoré. Elle a pas participé à la journée d'études, mais on avait quand même envie d'amener peut-être une approche un peu plus sensible, un peu moins académique, pour ouvrir le livre. Et on lui a simplement demandé d'écrire quelque chose de plutôt personnel sur son parcours dans le monde des radios libres. Et franchement, j'ai adoré son article. Je suis vraiment contente. Donc, c'est la préface du livre.
Et donc, toi, ton article qui s'appelle « Le mouvement des femmes comme racine et horizon, pratique de la radio par le mouvement féministe, je ne vois ». Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il parle, même si le titre est assez explicite?
En gros, je me suis donc intéressée à l'émission Radio Pleine Lune, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et en fait, l'idée, c'était de voir quel lien l'émission entretenait avec le mouvement féministe et spécifiquement le mouvement de libération des femmes, à une période où, dans le tournant des années, de la fin des années 70, les femmes elles-mêmes parlent de déclin des luttes, quoi. Et donc j'avais envie de voir comment est-ce que la radio naît dans le mouvement, comment est-ce qu'elle les accompagne au moment de la sortie de cette phase, disons, très intensive de lutte, quoi, et qu'est-ce qu'elle vient de faire par la suite, quoi. Et voilà, donc en gros, l'idée de l'article, c'était d'observer un peu ces choses-là et de voir comment les actrices et les animatrices adaptaient leur pratique en fonction du contexte politique, quoi.
Et quand tu dis ce déclin des luttes, c'est quelque chose qui s'entend ou c'est quelque chose qui venait qui caractérise pour toi la période déjà avant d'avoir écouté, ou c'est un débat interne, quoi?
Je pense que c'est tout à fait un débat. Dans l'historiographie, c'est un débat parce qu'il y a des personnes qui vont parler de déclin des luttes, d'autres qui vont plutôt avoir envie de travailler les questions de continuité. Je pense que je me range dans la deuxième catégorie et c'est notamment la raison pour laquelle on avait envie de travailler sur ces émissions de radio. C'est de dire, le mouvement, il s'arrête pas d'un coup. Qu'est-ce qui continue? Qu'est-ce qui traverse la décennie? Enfin, qu'est-ce qui passe dans les années 80? Quelle forme ça prend? Et qu'est-ce qui s'arrête effectivement? Parce que oui, on peut pas nier qu'il y a des choses qui se sont quand même arrêtées. Donc voilà, on avait plutôt envie d'avoir un regard pas trop, de pas avoir des idées trop préconçues sur la fin effective. En revanche, les actrices elles-mêmes, oui, elles disent, mais d'ailleurs on va l'écouter dans un des extraits, la déconfiture, elles disent. Je sais pas si on l'entendra dans l'extrait, mais elles parlent de, il y a quelque chose qui s'arrête, quoi. Notamment, elles disent beaucoup que voilà, la période des grandes assemblées, du moment où il y a quelque chose de très collectif, très fort, ça s'arrête selon elles. Et puis à Genève spécifiquement, il y a eu en 76, il y a eu l'occupation d'un lieu pour le mouvement des femmes qui s'est appelé le Centre Femmes. Il s'est très vite arrêté parce que parce qu'en fait les autorités ont mis fin à l'occupation après quelques mois. Et ensuite de ça, elles sont beaucoup à raconter qu'elles recherchent un lieu qui devient un lieu légal, qu'elles obtiennent grâce au pouvoir public. Et voilà, il y a une sorte de chose qui change à partir de ce moment-là. Et ça, on l'observe assez bien dans les archives sonores. C'est intéressant de suivre aussi le récit qu'elles font de la façon dont les luttes politiques auxquelles elles prennent part sont modifiées par les événements. Ouais.
Et justement, toi, dans le cours de cet article, tu parles de structure de veille. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça veut dire? Tu qualifies les émissions de radio de structure de veille. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette idée, quoi?
C'est une hypothèse. L'idée de structure de veille, elle a été développée par une sociologue américaine qui s'appelle Verta Taylor. Et elle décrit la façon dont certaines structures entendues au sens large, donc pas que des organisations... Parce que, en fait, elle aimerait dépasser un peu l'idée d'une organisation comme l'idée de la carte de membre, quoi. Donc l'idée que certaines structures viennent, dans des périodes de reflux politique, servir à des militants militantes pour maintenir des espaces où on produit une culture politique commune, où on met en veille ce qui était commun pour que ça se réactive par la suite, quoi. Et franchement, je trouvais que, en lisant un peu des choses sur le travail qu'elle fait autour de ça, ça correspondait tellement bien à la fonction que la radio semblait en fait avoir pour les animatrices à cette époque-là. On va l'écouter après dans les extraits, mais voilà, elles le disent elles-mêmes, quoi. En gros, à un moment donné, elles disent un truc assez drôle. Elles disent, quand on est très active, il n'y a pas d'émission, mais à partir du moment où on se calme un peu, et ben là, on a le temps de faire de la radio, quoi. Et donc voilà, je trouvais intéressant de réfléchir à cette fonction-là de la radio. Je pense pas que c'est la seule. Et d'ailleurs, je pense qu'elles pensaient, elles, au départ, quand elles ont commencé à faire des émissions, que la radio allait vraiment être un outil d'intervention, qu'elles allaient aller au cœur de ce qui se passe avec leur micro, etc. Et bon, en l'occurrence, c'est pas exactement ce qui se passe. Et donc, elles doivent réadapter un peu leur analyse de la situation. Et c'est à ce moment-là qu'elles se disent « Ah, mais en fait, la radio, c'est peut-être un endroit où on va se rencontrer, où on va échanger, où on va faire preuve de réflexivité sur ce qu'on fait. » Et je trouvais que le concept de structure de veille correspondait plutôt bien à ce qu'elles décrivent, quoi.
Ah, c'est intéressant. Mais Moi, je me dis dans cette idée de veille, il y a quand même une idée un peu de passivité. Moi, je me demandais s'il n'y avait pas aussi par rapport à mon expérience de la radio, aussi des moments où il y a des choses qui se recomposent, qui se réinventent, c'est-à-dire des endroits de transmission et de reformuler, c'est-à-dire cette parole. Moi, ce que je trouve intéressant avec la radio, c'est qu'à des moments, c'est un endroit de prise de parole, mais c'est un endroit où se construit la formulation. Et je pense d'autant plus à l'époque où on était sur des ondes et en fait on t'entendait une fois et on t'entendait plus, c'est que du coup ça permettait d'être un peu à l'aise de dire un truc et puis après d'en dire un autre, en fait de faire évoluer une pensée. Dans cet échange, est-ce que ça c'est des trucs que tu as entendus ou...
Ce qu'on observe dans les années 80, c'est qu'il y a une professionnalisation certaine de beaucoup de militantes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on assiste, mais bon, c'est moins lié à la parole, mais bon, je le dis quand même, on assiste à une sorte de réflexivité sur ce processus de professionnalisation. Parce qu'en fait, ces femmes, elles sont invitées à l'antenne et elles viennent discuter de ce qu'elles sont en train de mettre en œuvre avec les animatrices, qui parfois sont un peu critiques de ce qui se passe. Et donc, elles reviennent souvent. Parfois même, elles ont carrément des espèces de rendez-vous réguliers. Et donc, on peut quand même observer ce qui se joue entre elles sur leurs différentes options politiques au moment où le mouvement se calme, quoi. Après, sur la question de l'élaboration d'une parole médiatique, ben ouais, c'est intéressant, je pense. Franchement, ça serait intéressant de... Parce qu'un travail que j'ai pas du tout fait, c'est que j'ai pas vraiment testé la validité de ce concept sur la longue durée de Radio Pleine Lune, mais plutôt sur le moment de passage entre la fin... Enfin, en fait, sur le moment du début des années 80. Et c'est vrai que ça serait intéressant de voir effectivement comment ce truc-là, il tient dans le temps. Mais une chose qui est intéressante, c'est qu'à la fin, tout à la fin, en 99, de l'émission de radio, elles ont un regard assez mémoriel sur ce qu'elles sont en train de faire. En fait, elles ont fait le processus, elles ont été actrices, ensuite elles ont maintenu une culture politique qui était la leur, jusqu'au moment où elles viennent se poser des questions de mémoire sur cette culture qui est la leur. Elles finissent l'émission en parlant d'un livre qui a été fait avec des anciennes du MLF, donc il y a déjà l'idée que leur histoire c'est du passé, et en même temps on vient la transmettre à des nouvelles générations qui arrivent. Et je pense qu'effectivement, oui, clairement d'ailleurs c'est le cas, la station de radio elle va servir, il y a des plus jeunes qui vont venir, qui vont finalement pas trop les remplacer. Je sais pas exactement s'il y a des nouvelles émissions féministes qui démarrent au moment où elles arrêtent, mais en tout cas il y a quand même une idée de relais qui s'opère à ce moment-là. Et l'autre chose qu'elles font, qui pourrait être intéressant d'observer aussi un peu à la lumière de ce concept, c'est qu'elles invitent des jeunes féministes, notamment leurs filles qui sont adolescentes, à venir parler de ce qu'elles pensent, des luttes, de ce qu'elles font, de c'est quoi leurs héritages, leur rapport à leur mère, etc. Et je pense que là-dedans il y a des choses intéressantes qui pourraient être observées à la lumière de ce concept. En tout cas, j'ai l'impression que ce concept, il vient marquer l'idée que on n'est pas dans une période où on est à l'offensive, on n'est pas à l'initiative, il n'y a pas les conditions politiques pour, mais on continue à renforcer quelque chose qui est de l'ordre de notre culture de lutte, quoi. Mmh. Voilà.
Mais on va écouter les extraits sonores, du coup, pour que tu les commentes. Alors, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dans le livre, il y a plusieurs articles qui sont accompagnés d'extraits sonores et le livre est disponible sur Internet. On mettra le lien. Donc, le premier, Radio Pirate 101, premier fichier. Donc, après, je lis la description parce que moi, ça m'intéresse ce genre de description. 44 minutes, mai 1976, 29:55 à 30:58. Donc fond Radio Pirate 101, on l'écoute.
Je vous parlais à celles qui font des longues marches à travers le magasin pour trouver quelque part un morceau de viande à un prix abordable.
Vous voyez, ça fait bien pas propre, machine ou pas machine, ça fait tout.
À celles qui font de longues marches dans la ville pour trouver un coin de verdure, entraînant leurs enfants, apeurés, excités. Poussant des poussettes, refusant des sucettes, portant des paquets, entraînant l'aspirateur, maniant le balai, ouvrant et fermant la machine à laver.
Alors, Radio Pirate 101, c'est une des ancêtres de Radio Pleine Lune. Je raconte un peu, parce que c'est une histoire importante dans le mouvement Genevois. En fait, en 76, il y a des militants, militantes qui décident de faire une émission pirate. Donc en Suisse, c'est pareil qu'en France à l'époque, le monopole est détenu par l'État, l'accès aux ondes FM est absolument interdit à toute personne n'étant pas... on ne peut pas faire ces émissions, quoi. Et donc, il y a 6 émissions qui sont diffusées de manière pirate à Genève pendant un mois, en gros, entre, je crois, la fin du mois de mai et le début du mois de juillet, quelque chose comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les femmes, elles ont une place importante d'emblée dans cette émission. Elles participent à ces 6 émissions. Elles ont une place... elles ont vraiment une place à l'antenne. Et en fait, on raconte que, les militantes racontent elles-mêmes que les femmes du MLF se sont réunies pour écouter les émissions en direct sur les ondes et que ça a suscité des discussions importantes sur effectivement la possibilité de prise de parole des femmes à l'antenne. Et en fait, alors c'est des choses qu'on déduit, mais en fait ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des personnes qui ont participé à cette radio pirate 101 qui ensuite ont fondé Radio Pleine Lune quelques années plus tard. Voilà. Donc c'est ce que je peux raconter sur cette première, ce premier extrait. Aussi, l'autre chose à dire peut-être, c'est que c'est, vous l'entendez bien, c'est pas facile de comprendre où on est, de quoi il s'agit. C'est un peu c'est un objet difficile à identifier. En fait, pour faire des émissions pirates, on pouvait pas faire du direct, donc c'était des choses qui étaient préenregistrées. C'était vraiment des créations qui étaient construites et ensuite diffusées sur des bandes, quoi. Et en fait, ces émissions-là, elles sont assez drôles. En gros, c'est une sorte de critique de la société d'un point de vue de l'extrême gauche, disons, autonome, quoi. Et les femmes, elles viennent y mettre leur regard spécifiquement féministe sur ces questions. Et donc là, on a accès à des petits bouts où elles viennent parler de la condition des femmes, leurs droits, leur quotidien, etc.
Et ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est des actrices, acteurs qui lisent. C'est ça, pour que personne soit identifiable sur les...
Ouais, tout à fait. En fait, les risques de répression sont vraiment très grands à l'époque. Les autorités mettent en œuvre des moyens immenses pour traquer les pirates et qui risquent des grosses amendes, voire des peines de prison. Donc on prend quand même pas mal de mesures pour les protéger. Et effectivement, il et elle racontent que c'était des comédiens et comédiennes qui avaient été employés. Je pense pas qu'ils ont été payés, mais en gros, qui avaient été sollicités pour enregistrer les émissions. Ouais.
Alors... La suite, donc le deuxième, Radio Tomate, Femmes dans les radios, partie 2, extrait donc d'une émission de 43 minutes, CA, 1983, donc CA, ça
aux doit alentours
être...
De... ouais.
Aux alentours de 1983. Donc de la minute 3.21 à la minute 6.21, Archives Contestataires font Radio Pleine Lune.
Oui, par rapport à... au rapport qu'une radio féministe peut avoir avec le mouvement ou ce qu'il en reste ou ce qu'il est devenu, c'est aussi un des problèmes qu'on a à Genève qu'à la Pleine Lune. Donc nous, on était tout issus du mouvement féministe, on était très partie prenante du mouvement pendant les 10 ans du boom du mouvement. Alors là aussi, on a essayé un peu d'analyser la crise et puis on s'est dit, effectivement, le mouvement organisé comme lieu de... Les lieux de femmes, ils sont désertés. La maison des femmes qui s'appelle le Centre Femmes à Genève est un lieu très triste. On n'y va pas. Le mouvement, par exemple, sur l'avortement, où il se passe plus ou moins la même chose qu'ici, c'est-à-dire que en Suisse, il y a un système d'initiatives qui sont lancées. Et il y a une nouvelle initiative sur l'avortement qui ne comprend plus la gratuité, le remboursement par les caisses maladie. Donc on voit dessiner les mêmes choses. Et là, il y a le mouvement des femmes, classique, il est complètement essoufflé sur ce thème et n'a pas la force de réagir. Donc il y a le mouvement classique, entre guillemets, il est effectivement assez en crise. Mais on a vu qu'il y a plein de choses de femmes. Il y a plein de choses de femmes, il y a plein de petits groupes, de petites choses qui se passent par-ci, par-là. Par exemple, une des choses qui nous a beaucoup plu, c'est qu'à Genève, il y a par exemple un mouvement d'occupation des maisons assez, assez fort. Et dans ce mouvement d'occupation, il y a un groupe de femmes. Les squats. Et il y a un groupe de femmes qui est en train de squatter un immeuble. Elles squattent un étage. Et maintenant, elles vont squatter un immeuble en tant que femmes. Ça s'appelle le squat femmes. Donc il y a des initiatives de femmes qui sont des initiatives autonomes, mais qui ne sont pas issues de ce qu'était le mouvement. Mmh. Donc ces initiatives, elles existent, elles nous plaisent, et nous, on a essayé de leur donner de la place à la radio, mais On voyait pas et on voit toujours pas, et c'est un problème qu'on se pose, et puis on se demande comment les autres vous le posez. Comment la radio, qui est un instrument qu'on écoute, qu'on fait un peu seul et qu'on écoute plus ou moins seul, peut être un instrument de regroupement de toutes ces choses éclatées. Alors on s'est dit que en fait il y avait un problème à ce niveau-là. On voyait que la radio, on pensait que c'était un instrument très très fort de potentialité, mais qu'actuellement c'était pas un moyen qui était un moyen de regroupement déjà physique, puisque les gens qui l'écoutent, les femmes qui l'écoutent, elles l'écoutent seules, quoi. Alors pour l'instant l'idée qu'on a et qu'on a eue, c'était d'utiliser que la radio soit le lieu où ces femmes s'expriment, où elles disent ce qu'elles font, on dit les rendez-vous et tout. Mais après, physiquement, c'est pas du tout un lieu de rapprochement.
Alors, qu'est-ce qu'on écoute là ? On écoute une femme de Radio Pleine Lune, en fait Viviane Gonick, je peux le dire, qui s'exprime sur les ondes de Radio Tomates. Elles ont été invitées en fait par des animatrices d'une émission de radio dont je ne connais pas le nom malheureusement. Elles ont été invitées sur les ondes de Radio Tomate par les animatrices d'une émission qui s'appelle Les Nanas Radioteuses. Et en fait, le thème de l'émission, c'est « Qu'est-ce qu'une radio de femme ?» Et je trouvais que c'était une source hyper intéressante parce qu'elle permet, comme on l'entend, de percevoir la réflexion que les animatrices mènent sur la fonction de ce qu'elles sont en train de faire, en fait. Et bon, c'est assez précieux des sources comme ça. C'est assez rare, en fait, qu'on ait accès à ce genre de choses. Et en fait, ce que Viviane explique à ce moment-là, c'est que elle constate qu'elles sont plus vraiment à l'initiative, qu'il y a plein d'autres choses qui se passent, et elle se demande comment est-ce que ces autres choses pourraient trouver leur place à la radio, comment est-ce que la radio pourrait leur servir à rentrer en contact avec ces nouvelles générations de féministes. Elle le dit pas comme ça, ça c'est moi qui le dis, mais voilà, c'est ça qu'on comprend, quoi, des nouvelles choses de femmes, elle dit. Et puis l'autre chose intéressante qu'elle dit, c'est comment est-ce que est-ce que la radio peut d'elle-même créer quelque chose qui va réactiver le mouvement ou pas, en fait ? J'ai l'impression qu'elle se rend compte, en discutant, en expliquant leur situation à Genève, que la radio, elle vient peut-être plutôt soutenir des choses déjà existantes qu'être elle-même un moteur de lutte, quoi. Bon, il y a une sorte de tension autour de ça. Je trouvais que c'était assez intéressant à faire entendre aux personnes qui vont lire le livre. Et puis, ça m'a aussi permis de développer un peu de cette question d'histoire de veille, de structure de veille dont on parlait avant, quoi. C'est tout à fait en lien. Qu'est-ce que le devenir de la radio, en gros, dans la bouche des animatrices ?
Mais là, en plus, il y a une émission de radio qui invite une autre émission de radio pour parler de c'est quoi la radio. Donc, il y a quand même une vie qui a l'air assez importante, quoi, parce que c'est la troisième émission, parce qu'il y a deux archives d'émissions féministes, et là c'est une troisième.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est assez intéressant. Effectivement, dans le fond de Radio Pleine Lune, je ne l'ai pas trop dit, mais il y a les cassettes des émissions qui ont été produites par Radio Pleine Lune, mais il y a aussi plein de petites choses en plus, des émissions auxquelles elles ont participé surtout, où il y a aussi des rushs, des enregistrements d'entretiens, des bouts de choses, on n'arrive pas forcément à trop qualifier de quoi il s'agit, comprendre exactement le contexte de production, mais voilà. Et ça faisait partie des choses intéressantes de ces fonds, c'était de voir aussi qu'elles font partie d'une sorte de communauté de productrices de radio. Il y a un autre document intéressant dans le fond, un document papier, c'est une sorte de comment on appelle ça, de guide des émissions de radio féministes en Europe dans les années 80, qui a été produit par une femme, une Danoise, je crois, je ne me rappelle plus de son nom, qui va leur rendre visite, en fait, et qui ensuite fait une sorte de répertoire comme ça. Assez intéressant, avec des petits entretiens, les personnes ont un peu d'espace pour expliquer leur projet. Et oui, on se rend compte qu'elles ne sont pas du tout isolées, évidemment. Enfin, c'est vraiment c'est un mouvement en tant que tel, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu montré dans le livre. Je réalise que ça aurait été assez intéressant d'avoir peut-être un travail qui prenait un peu une position de surplomb pour montrer effectivement ce réseau. Là, on ne le voit pas du tout dans le livre. On voit différentes expériences qui se ressemblent et qui ont lieu au même moment, mais on ne se rend pas très bien compte des liens que les actrices ont entre elles, et elles en ont certainement. Et je ne sais pas trop s'il existe des travaux sur ces réseaux-là, je n'en suis pas sûre.
Mais c'est incroyable comme document, là. Ce dont tu parles, là, c'est en anglais.
Anglais, je crois bien, oui, c'est en anglais. Je pense qu'il est numérisé. Je pense que je pourrais le mettre en lien. À mon avis, on l'avait numérisé et il est sur l'inventaire. On peut regarder pour le mettre en lien.
Ah, parce que ça fait une photo comme ça. Puis c'est cette idée d'une personne qui circule dans toutes les émissions. Voilà, ça fait. Ça doit être hyper intéressant, justement, d'avoir ce point de vue.
Ce qui est drôle, c'est que pour l'instant, j'ai l'impression que l'histoire des sources radiophoniques, c'est l'histoire d'absence, quoi. Enfin, c'est qu'en fait, on n'arrête pas d'apprendre l'existence d'émissions de radio qui ont l'air incroyables. Et voilà, il n'y a pas de source, en fait. Et donc, c'est aussi apprendre à gérer cette frustration. Ouais, c'est assez intéressant.
Et ben on va sur le troisième extrait qui est Radio Tomate, Femme dans les radios, partie 2. J'imagine toujours la même émission. Plutôt dans l'émission.
Pour les radios, pour nous les nanas radioteuses, la réflexion qu'on a faite, c'est qu'on est au sein de la Maison des Femmes et qu'au sein de la Maison des Femmes, il y a X groupes de femmes qui font encore quelque chose. Là où le mouvement des femmes est un peu en déconfiture, c'est que ces groupes sont isolés, font un boulot seul, mais ce sont encore des groupes qui existent, qui travaillent et qui font quelque chose. Nous, on a fait des rubriques, bon, j'en ai pas parlé tout à l'heure, des rubriques MLAC, des rubriques droit du travail. C'est des copines qui pouvaient venir ponctuellement, mais qui ne pouvaient pas participer à plein à la radio. Alors, je dirais, à la limite, que si cette radio a un peu du mal à se mettre en place, c'est que, aussi, les copines font vraiment du boulot. Dans le mouvement des femmes, il y a encore des revues, plusieurs revues. Il y a des groupes femmes recherche, des groupes de bouffe, des groupes de plein de choses qui fonctionnent, qui sont relativement dispersés, mais qui fonctionnent et qui ne peuvent pas participer à plein dans une radio. Bon, alors c'est un peu une analyse différente de ce que tu fais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas finalement. Si j'ose dire, une déconfiture plus grande aura peut-être conduit à une radio plus importante.
Voilà, ça c'est l'extrait dont je parlais avant quand je parlais de l'histoire de structure de veille. Effectivement, c'est intéressant, cette animatrice des nanas radioteuses parisiennes, donc, elle vient poser une sorte de contradiction, quoi. Elle dit, si on fait de la radio, c'est qu'on a le temps, donc ça veut dire qu'on n'est pas en train de lutter, en gros. Et je trouvais intéressant, je pense qu'il y a plein d'hypothèses valables, hein, et c'est ça que l'émission montre quand on l'écoute en entier, c'est qu'on se rend compte qu'elles débattent et il y a plein d'avis qui se confrontent sur quel est le rôle de la radio, pourquoi est-ce que le mouvement est moins fort, comment faire pour avoir plus de femmes à nos côtés, etc. Et voilà, en fait, oui, pour dire aussi important, c'est que ces extraits qu'on écoute là, ils viennent illustrer mon article et donc ils viennent aussi raconter une histoire que j'essaie de raconter dans l'article, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont été choisis comme ça. Et c'est peut-être important d'avoir aussi le support écrit pour mieux comprendre les choix.
Ouais. Mais du coup, tu peux nous en dire plus sur les choix, tu crois ? Tu peux éclairer un peu plus ?
Que mon idée, c'était de montrer, d'expliquer la genèse de Radio Pleine Lune. D'expliquer comment est-ce que des femmes décident de s'emparer de la radio comme média principal, sachant que ces femmes, avant de faire Radio Pleine Lune, elles ont fait des revues, donc elles ont déjà une activité éditoriale. Pourquoi est-ce qu'elles décident de passer à la radio ? Comment est-ce que ça advient ? Et ensuite, la suite de l'article, c'est ce dont on a déjà un petit peu discuté, quoi. C'est une sorte de réflexion sur quel est le rôle de la radio selon elles dans le cadre du mouvement et dans leur lutte féministe au quotidien. Et puis l'autre chose que j'essayais d'aborder un peu, c'est de voir... en fait, l'article, il s'appelle le mouvement des femmes comme racine et horizon. En fait, elles disent... pour nous, animatrices de la radio, le mouvement des femmes, il est à la fois la racine et l'horizon de notre émission. Et j'ai essayé de réfléchir un peu à ce que ça veut dire ça, en fait. Voilà, l'article, il présente un peu, oui, à la fois l'origine et en même temps le futur possible de la radio, selon leur dire, quoi. Ça réfléchit, c'est un peu ça, la réflexion.
Quand elle parle de déconfiture, elle dit à la fois c'est la déconfiture, mais pas tant que ça, parce qu'il se passe encore plein de choses. Et en même temps, il y aurait plus de radio s'il y avait plus de déconfiture. Mais voilà, on sent à la fois elle dit c'est pas un élément d'intervention et en même temps elle cherche à faire en sorte que cette déconfiture soit moins grande, quoi. C'est elle cherche à finalement faire exister d'une certaine manière le mouvement et ça je trouve intéressant. Et après je en pensant à d'autres espaces, que ça soit Radio Klaxon sur la ZAD ou que ça soit Lorraine Cœur d'Acier pendant la lutte des mineurs à Longwy, des sidérurgistes à Longwy, il y a un contexte qui est complètement différent où là on sent il y a une lutte et la radio vient prendre une place complètement différente parce que justement cette lutte est là, quoi. J'ai l'impression que c'est très contextuel, quoi, leur relation à la radio, quoi.
Oui, tout à fait. Je pense qu'un autre exemple qui n'est jamais cité de manière explicite dans le livre, mais qui plane un peu au-dessus, c'est l'expérience italienne, quoi, qui est hyper importante quand même pour le mouvement des radios pirates des années 70, parce que bah, voilà, c'est un peu les premiers, les Italiens, à démultiplier des émetteurs et à utiliser vraiment la radio comme outil de lutte, quoi. Et avec justement une pratique, j'ai l'impression, d'intervention très forte dans les manifs, relais de ce qui se passe, etc. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que les femmes de la pleine lune, elles ont obtenu leur émetteur en Italie parce qu'elles étaient proches, notamment des féministes de Padoue, puisque en fait, certaines d'entre elles ont beaucoup été actives dans le mouvement du salaire au travail ménager. Voilà, je rentre pas trop dans les détails, mais c'est une expérience de lutte italienne importante. Et elles ont essayé un peu d'importer cette revendication à Genève. Ça a pas tout à fait marché, mais voilà, elles étaient en lien avec l'Italie. Et je pense qu'elles sont aussi inspirées par exemple, des expériences comme Radio Donna à Rome, où comme la radio a lieu au moment de pic du mouvement, de fait, il y a aussi des femmes qui rentrent dans cette radio par effraction pour venir, effectivement, notamment, je crois, un collectif de ménagères qui va naître dans le cadre de la radio et qui va venir faire ses propres chroniques à l'interne. Et ça, c'est sûr, c'est l'idéal, quoi. C'est qu'elles auraient extrêmement envie, j'imagine. Et là, je raconte un peu, je suppose un peu des choses, elles ne le disent pas comme telles, mais j'imagine qu'elles auraient envie que la radio puisse servir d'espace comme ça, dont on s'approprie, où on vient avec nos idées, où il y a plein de monde qui vient parler de ce qui est en train de se passer. Et bon, en l'occurrence, il se passe moins de choses et elles n'y arrivent pas comme telles. Donc voilà, elles doivent s'adapter. C'est ça que j'observe dans l'article.
Quand j'avais commencé à regarder un petit peu le livre, il y a la préface de Juliette commence par « Ne haïssez pas les médias, soyez les médias ». Donc ce slogan de 99 de la plateforme Indie Media. Et je me demandais, mais qu'est-ce que ça vient faire là, quoi ? Parce que je me disais, radio féministe, je pensais à autre chose. Et là, maintenant, en parlant, je me dis, il y a vraiment cette idée, à un moment, de s'emparer du médium radio. C'est-à-dire, c'est pas simplement des émissions féministes, mais c'est vraiment le rapport de féministes à la radio, quoi, qui se joue dans ce livre. Peut-être il y a de ça, quoi.
Oui, tout à fait. Je pense que d'ailleurs, à ce titre-là, les émissions Radio Pleine Lune et Remue Ménage sont assez différentes l'une de l'autre, parce que dans le cadre Radio Pleine Lune, on a vraiment envie d'avoir une réflexion et de s'éloigner des normes journalistiques qui sont en train de prendre petit à petit le dessus sur le mouvement des radios libres. Et j'ai l'impression qu'au début, il y a encore un rapport très très libre à la façon dont la parole émerge sur les ondes, et puis petit à petit, ça ressemble de plus en plus à des émissions du service public. Tandis que dans le cadre du ménage, d'emblée, elle fait une émission beaucoup plus classique, quoi. Et je pense aussi à une autre chose dans le sens de soyez les médias. Ça, c'est peut-être plutôt une sorte de remarque a posteriori et un peu d'humilité, que autant Juliette Volclair raconte dans son article que de la même manière, les animatrices de Radio Pleine Lune, elles témoignent de la même chose. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les écoutent, ces émissions, en fait. Ça, il faut le dire, il faut être honnête. Et du coup, elles le font aussi pour elles. Et donc, oui, elles sont les médias parce que c'est une expérience qui est un peu menée par et pour les femmes du mouvement féministe. Il y a des conclusions à tirer de ça. Je pense qu'on pourrait dire tout un tas de choses. Et j'imagine que ça, c'est une réflexion qui est toujours tout à fait présente dans le cadre des expériences de radio telles que toi, tu fais peut-être. Enfin, voilà. Et je trouve que Juliette, elle parle aussi de ça quand elle dit... Enfin, c'est pas sa phrase à elle, mais ne haïssez pas les médias, soyez les médias. Et soyons humbles, puisque on va pas devenir... Il y a des expériences comme ça aussi, mais on ne va pas devenir le service public, quoi.
Ouais, mais c'est peut-être une bonne chose, en fait. Moi, c'est pour ça que j'aime bien le slogan de LCA, le « Écoutez-vous », quoi. Parce que, aussi, à un moment, il y a eu tout un travail sur résister au brouillage, hein. Allons-y. C'est cette idée qu'à un moment, on parle, mais il faut qu'on s'écoute. Et à un moment, il faut porter attention. Et je trouve que parfois... Dans des milieux de contestation, on pense souvent à se dire qu'il faut qu'on s'exprime, mais pas souvent à se dire il faut qu'on lise nos journaux, faut qu'on lise nos, il faut qu'on puisse réagir, il faut que nos débats se nourrissent plus de ce qui s'exprime dans différentes émissions proches que finalement des radios mainstream, et que parfois on forge notre point de vue à partir beaucoup du mainstream, à partir de on va commenter la télé, les radios, tout le monde écoute Les Pieds sur Terre par exemple, qui est une émission ici mais les podcasts plus différents, plus etc., on les écoute moins parce qu'ils sont moins professionnels, moins etc. Mais je pense qu'il y a un enjeu à cet endroit-là aussi, à un moment, de s'écouter, quoi.
Ouais, c'est sûr. Bah, je trouve qu'un truc intéressant dont j'ai pas pas trop parlé jusque-là avec Radio Pleine Lune et Remue Ménage, c'est aussi qu'est-ce que ça fait de faire de la radio sans hommes, quoi, qui est quand même leur grosse question. Hein. Enfin, elles arrivent à s'octroyer de l'espace dans la station, à finalement s'organiser de manière complètement autonome, et c'est un peu la situation de beaucoup d'émissions de radio féministes de la période, quoi. C'est vraiment de dire on va tout faire nous-mêmes sans hommes, de la technique à, voilà, à la diffusion des émissions, à la production, l'animation, etc. Et j'ai l'impression que, ouais, que c'est aussi une donnée importante dans ce qu'a été cette expérience, en fait, qui peut-être aujourd'hui, c'est un peu différent. Je pense qu'on la question de la mixité choisie ou de la non-mixité, elle n'aurait plus forcément la même fonction, quoi, tout, alors qu'elle existe toujours, hein, et c'est très bien. Mais disons que ouais, je trouve important de aussi voir l'histoire de ces pratiques-là.
Merci beaucoup, Géraldine, pour être venue jusque-là parler de ça. Et puis, bah, à bientôt sur les ondes, quoi.